des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril. .com.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Bon, avec la fin de ce fameux défi 28 jours de mesures sanitaires x2 imposé par le gouvernement, Noël qui arrive, on se demande si on va avoir droit à un assouplissement des mesures sanitaires et comment ça va se goupiller tout ça. On en parle avec Roxane Borges de Silva, qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges de Silva, bonjour.
Bonjour, Madame Peterson.
Bon, on va faire un retour sur ce point de presse qui vient d'avoir lieu. On est toujours en période de questions. Deux trucs majeurs qu'on retient. On était quand même un peu dans les bonnes nouvelles aujourd'hui. Là, on nous disait que, grosso modo, les mesures sanitaires mises en place avaient l'air de porter fruit. En bas, on est en dessous. Aujourd'hui, pardon, on est en dessous des 1000 cas. On en a 984, si je ne m'abuse. Ça, quand même, c'est encourageant.
En fait, je me réjouirais pas si vite personnellement parce que, et le Premier ministre l'a dit lui-même, on teste moins durant le week-end. Donc les résultats qu'on vient d'avoir, c'est des résultats du week-end. On peut pas statuer sur une stabilisation ou une baisse à partir d'une seule journée. Il faut au moins une semaine de tendance, si je peux dire, pour pouvoir se permettre de dire qu'on est sur une stabilisation ou une baisse. Regardez, la semaine dernière, on avait une progression constante jusqu'à 1500 ce week-end. Je garderai une certaine réserve, personnellement, pour statuer sur une baisse.
Mais oui, on va attendre, bien entendu, là, c'est parfaitement logique. Deux choses, prolongement du congé des fêtes pour les écoles, comme on en parlait la semaine passée avec d'autres intervenants, j'ai l'impression que c'est un peu une mesure à deux tranchants, c'est-à-dire, ça veut pas dire que les personnes vont arrêter de se voir après Noël. T'sais, on a le 24 décembre, le 25, le 1er janvier, où on a des réunions familiales, mais si on a ces deux semaines-là, tampon, entre guillemets, là, ça veut dire... ça veut pas forcément dire que les gens vont stopper de se voir, donc c'est peut-être ça sert pas à grand chose.
Mais en fait, j'ai hâte de voir les mesures qui vont être proposées ou imposées par le gouvernement. Peut-être que le gouvernement va demander à ce que les gens se voient uniquement à deux moments précis, le 24 décembre peut-être et le 31 décembre, je ne sais pas, ou le 24 décembre et le 1er janvier, ou en tout cas, et d'éviter tout rassemblement les autres journées, comme c'est le cas actuellement. Si le gouvernement propose ce type de mesure-là et que on reprend l'école 14 jours après le 1er janvier, c'est sûr qu'on a de grandes chances d'avoir circonscrit toutes les explosions qui auraient pu survenir à partir de contacts familiaux ou dans les fêtes de famille.
Mais oui, puis là, Mme Borges da Silva aussi, là, par rapport à Noël, là, les gens se posent beaucoup de questions, les gens ont besoin de planifier. Là, on nous a clairement dit que ça serait la même solution pour tout le Québec. Donc, ça sera la même chose qu'on soit dans une zone rouge, une zone orange ou une autre zone. C'est quand même une patate chaude, cette question de Noël, parce que évidemment, c'est impossible de vraiment les contrôler, les parties de Noël. Il y aura forcément des éclosions parce que on va se le dire, les soirées de famille, c'est exactement le genre de situation idéale pour le virus, là.
Oui, tout à fait. Et ça va être compliqué. Et en fait, il va falloir compter sur le bon vouloir de la population de respecter les règles qui vont être dictées par le gouvernement. Parce que si on a une grande partie de personnes qui respectent pas les règles et qui font des parties à 30 ou 40 personnes, on risque d'avoir des grosses éclosions. Et ça va être difficile. Et il va y avoir les grands-parents, les oncles, les tantes qui risquent de se retrouver à l'hôpital et même de décéder. Et il faut penser à ça quand on organise les fêtes. Alors j'espère que la population québécoise va y penser.
Oui, puis en même temps, je me disais, est-ce qu'on est en train, en quelque sorte, de faire une solution simple pour faire plaisir à tout le monde? Parce que si à un moment donné, on dit non à certaines régions et on dit oui à d'autres régions, ça va susciter la grogne. Moi, je disais, par rapport à l'Halloween, là, Mme Borges de Silva, je me disais, c'est un peu une décision qu'on prend pour faire plaisir au monde. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même situation avec Noël.
Mais en fait, il faut faire attention. On n'est pas tout à fait dans la même situation parce que l'Halloween, c'était une fête en extérieur. Si les gens respectaient les règles, c'était juste des déplacements en extérieur. En extérieur, en fait, dans l'air, le virus se dilue beaucoup plus facilement qu'en intérieur. Par contre, pour les fêtes de Noël, mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'adopter une règle pour tout le Québec, qui soit standardisée, qui soit facile à comprendre, un seul message de communication clair pour tout le monde. Et puis, de toute façon, le virus est présent partout au Québec et on voit que certaines régions qui n'avaient pas du tout été touchées, comme le Saguenay, vivent vraiment en ce moment des moments difficiles. Donc, ça serait pratiquement, sachant qu'on est tous touchés partout, ça serait inutile de compliquer un message et d'avoir des règles différentes pour tout le Québec.
Et en même temps, c'est impossible de penser que les gens vont parfaitement suivre les consignes à Noël. Et je pense que le gouvernement en est parfaitement conscient. Là. Les gens vont vouloir passer des soirées en famille. Puis là, on se demande, est-ce que les policiers vont être appelés à intervenir? Je vois mal les policiers arriver à Noël puis dire aux gens, allez-vous-en chez vous, tu sais.
Mais j'invite les gens à réfléchir à cette idée, ce besoin d'être en famille avec d'être en famille nombreuse versus le risque d'avoir parmi les membres de la famille qui seront présents, la quarantaine de personnes, des gens qui vont finir à l'hôpital et qui vont décéder. Donc c'est un pensez-y sérieusement, là, pensez-y à deux fois avant de faire des parties de famille, parce que il peut y avoir des personnes qui soient asymptomatiques dans le party, puis c'est fini là, quand ça pogne, ça pogne.
Ben oui,
tout le monde va l'avoir.
En même temps, hier j'entendais qu'on va possiblement permettre 3 familles, 10 personnes. Moi, je trouvais ça beaucoup, Madame Borges de Silva. Honnêtement, là, je trouvais ça trop.
C'est sûr que, mais en fait, c'est toujours un équilibre qui est très difficile à trouver entre la santé mentale et les risques et le besoin de la population de se relâcher un peu et de fêter avec le temps des fêtes. Mais c'est pour ça que le gouvernement pense à ces mesures de prolonger les vacances de Noël, de reprendre l'école un peu plus tard, pour justement circonscrire les éclosions qui pourraient avoir lieu et éviter que les enfants ramènent le virus dans les écoles.
Bon, puis une autre préoccupation là, qui est un peu éclipsée par toutes les questions entourant Noël, ce sont les éclosions dans les milieux de travail. Où est-ce qu'on en est où par rapport à ça? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter?
Absolument. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui... Parce qu'on s'occupe, on se préoccupe beaucoup des enfants, ça passe un peu sous la couverte, si je peux dire, mais c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu un rapport qui a été fait par des inspections qui ont été faites par le ministère du Travail, ministère du Travail, où on voit que il y a eu énormément, sur 303 milieux qu'ils avaient visités, 301 ont eu des avertissements. Ce qui montre que les mesures ne sont pas parfaitement respectées dans les milieux de travail. On se relâche un peu au moment du dîner, dans les aires de repas, et c'est important d'y faire très attention parce que ce sont des milieux d'éclosion qui sont très prévalents et qui des endroits où le virus se répand facilement.
Bon, je veux pas qu'on se laisse sur une note négative là, je veux qu'on propose des solutions. Là c'est clair là, cet hiver va falloir vivre avec la pandémie, il va falloir conserver nos bonnes habitudes, mais à part rester chez nous là puis avoir peur puis capoter avec la pandémie, je pense que c'est important qu'on se change les idées, qu'on fasse des activités dans la mesure du possible et de la sécurité de tout le monde là. Est-ce que des activités qui ont un facteur de risque très bas qu'on pourrait se permettre?
Absolument. Toutes les activités extérieures, aller patiner, aller marcher dehors, aller construire des bonhommes de neige avec ses enfants, aller faire du ski de fond, du ski alpin, toutes ces activités-là en extérieur ou même juste glisser.
Oui, les centres de glisse restent ouverts. Ça me surprise, mais c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est ça, aller glisser ou même juste prendre une trip puis aller glisser sur la colline à côté de chez nous.
Au parc.
Là, c'est au parc, voilà exactement. C'est quelque chose de fortement recommandé pour la santé mentale, pour faire un peu d'activité physique et pour prendre de l'air et s'aérer le cerveau. Et c'est tout à fait... les risques sont très, très faibles dans ces activités-là.
Bon, très bien, Madame Roxane Borges de Silva, qui est professeure au département de gestion d'évaluation de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé.
Je vous en prie, bonne journée, au revoir.
Bonne journée.